Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, la taxe GAFA se trompe-t-elle de cible ? Le génie fiscal français n'a pas de limite. Ainsi, la taxe GAFA est-elle entrée en vigueur hier, avant même d'exister officiellement dans la loi ? Depuis 24 heures, les multinationales du numérique, que sont Google, Apple, Facebook et autres Amazon, sont donc soumises à une taxe, encore virtuelle, de 3% sur leur chiffre d'affaires. Or, cette chronologie un peu étrange ne doit pourtant pas masquer l'essentiel. La France vient de frapper un grand coup en décidant d'appliquer une telle taxe et de le faire seule, sans attendre que l'ensemble de ses partenaires européens se mettent d'accord. Le signal est clair, il s'agit de répondre politiquement à une pratique qui permet à ces géants du numérique de payer des impôts dérisoires au fisc français, sans commune mesure en tout cas avec les activités qu'elles exercent sur notre territoire. Pour autant, une telle approche est-elle efficace ? Le gouvernement espère obtenir 500 millions d'euros de cette taxe, pas de quoi faire plier les GAFA. En revanche, les entreprises européennes du numérique pourraient y perdre quelques plumes. Surtout, cette taxation ne s'attaque pas aux véritables racines du mal, celle de l'optimisation fiscale, qui permet à ces multinationales de mettre les systèmes fiscaux nationaux en concurrence. Alors la taxe GAFA se trompe-t-elle de cible ? Eh bien, c'est la question que nous allons poser ce soir à trois invités. Mounir Majoubi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances en charge du numérique. J'imagine que c'est vous qui allez piloter la mise en place de cette taxe GAFA.
Avec Bruno Le Maire, qui est notre ministre de l'économie et des finances, mais oui, évidemment, on travaille beaucoup.
Voilà, et vous nous expliquerez dans un instant de quoi il retourne. Pour discuter avec vous, Dominique Plion, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, porte-parole de l'organisation ATTAC, organisation qui mène des actions contre le pouvoir de la finance et des multinationales. Ça, c'est ce qu'on peut lire sur le site d'ATTAC, qui est plutôt opposé au principe de la taxe GAFA. Vous nous expliquerez pourquoi, là aussi, dans un instant. Et puis, troisième invité, il est au téléphone depuis Londres. Il s'agit de Benoît Thiolin. Bonsoir. Benoît Thiolin. Alors, Benoît Thiolin ne nous répond pas. Est-ce qu'il est au téléphone ou est-ce que c'est parce qu'on n'a pas ouvert son micro ? Pour l'instant, on va dire qu'il ne nous répond pas parce qu'il ne nous entend pas. Et ben, on va voir si on essaie de le récupérer. Vous me ferez signe en régie dès que vous l'aurez. On va commencer, si vous le voulez bien, Mounir Majoubi et Dominique Plion, par voir peut-être déjà sur quoi vous êtes à peu près d'accord. Et il faut parler du diagnostic. Quel est le problème, en fait, aujourd'hui avec les GAFA ? Est-ce que c'est que ces entreprises, donc je rappelle, hein, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, quand on parle des GAFAM, est-ce que le problème c'est que ces entreprises ne payent pas d'impôts, ou en tout cas, plutôt qu'elles ne payent pas suffisamment d'impôts au regard de ce qu'elles devraient, Mounir Majoubi ?
Alors, faut revenir sur la réalité économique de leur activité. On peut prendre les deux exemples les plus importants qui sont Facebook et Google. Ce qui procure à ces deux boîtes le plus grand volume de chiffre d'affaires, c'est la pub en ligne. La pub en ligne, qui c'est qui paye ? Ben, c'est majoritairement des PME françaises et des entreprises françaises qui payent à Facebook et à Google de la pub pour toucher des citoyens français, futurs consommateurs ou consommateurs actuels, pour qu'ils achètent leurs produits. C'est finalement tout le mécanisme traditionnel qui passait avant majoritairement par la presse et la télé, qui passe maintenant de plus en plus et pour la première fois de façon majoritaire par Internet. Donc dans ce mécanisme, vous voyez, c'est des boîtes françaises qui veulent toucher des consommateurs français. Sauf que l'intermédiaire entre les deux, ces entreprises-là, elles sont multinationales. Ça veut dire quoi, multinationales ? C'est-à-dire qu'elles ont un endroit où on développe le service, qui est plutôt basé aux États-Unis, puis ils ont un endroit qui opère le service en Europe, qui encaisse majoritairement en Europe, qui est souvent basé en Irlande, et puis elles ont une petite activité liminaire de représentation commerciale, de représentation marketing en France. Quand on veut les imposer, eh bien, ces boîtes respectent complètement le droit. Aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est pas qu'elles respectent pas le droit, c'est que le droit est mal foutu. Et donc, elles peuvent très simplement facturer depuis l'Irlande, qui a un système fiscal très optimisé pour elles, et ensuite avoir une optimisation qui là est beaucoup moins simple que la simple installation en Irlande, qui passe par une compensation des différents bénéfices pour que, in fine, quand ça retourne aux États-Unis, ils aient payé le minimum d'impôts possible. Ah, ils payent pas zéro international, ils appellent ça souvent le net-net international. Bah, moi, j'aime bien ce mot net-net international, mais ce qui compte, c'est là, le schéma dont je vous ai parlé, c'est des boîtes françaises qui payent pour toucher des consommateurs français. À la fin, il n'y avait quasiment rien qui était payé en impôts en France.
Voilà, ce qui fait que, par exemple, pour donner quelques chiffres, Google qui déclare 325 millions d'euros de chiffre d'affaires en France, qui paye 14 millions d'impôts sur les sociétés, donc là qui est dans la légalité, mais on estime, alors c'est un chiffre que on peut trouver dans la presse, que les recettes de Google sur le marché publicitaire que vous évoquiez, marché publicitaire français, sont estimées à 2 milliards d'euros. Est-ce que c'est un diagnostic que vous partagez, Dominique Plion, et est-ce que c'est une spécificité du secteur numérique et notamment de ces géants américains du numérique?
Alors oui, très largement. Je rajouterais peut-être à ce que vous avez dit, mais j'imagine que vous serez d'accord avec moi, c'est que dans le tableau, dans le mode de fonctionnement de ces entreprises, c'est que pour faire payer les publicités, en fait, elles se fondent sur des données qu'elles obtiennent gratuitement par leur modèle, leur business model, leur modèle d'affaires. Les informations qu'elles obtiennent sur nous, à notre insu, gratuitement, qui sont marchandisées. Et donc là, il y a quelque chose qui est spécifique au secteur, c'est-à-dire qu'on bénéficie d'ailleurs éventuellement gratuitement d'un certain nombre de services, du moteur de recherche, etc. Mais quand c'est gratuit, c'est qu'il y a un loup quelque part. Il y a quelque part une contrepartie. La contrepartie, c'est qu'elles utilisent les données nous concernant, qu'elles revendent ensuite à d'autres entreprises. Donc je crois qu'il fallait le rajouter, mais vous serez d'accord avec moi. Alors ensuite, je suis d'accord avec vous quand vous dites que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles utilisent ces entreprises, mais il n'y a pas que les GAFA. Beaucoup de multinationales, en dehors, les Danone ou les grandes banques, etc., dans l'agroalimentaire, dans la finance, utilisent en effet les failles, les mailles, les choses les anomalies qui sont dans le droit international, les différences qui existent entre les pays, les différences de fiscalité, et donc elles en profitent, elles font ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale. La question, c'est comment se fait-il que les gouvernements, je ne parle pas du gouvernement français en particulier, les gouvernements à l'échelle européenne, voire mondiale, aient attendu si longtemps, alors que c'était une évidence que ces entreprises se jouaient de ces différences fiscales entre les pays, et ça c'est quelque chose d'incroyable. Alors le numérique en rajoute une couche, c'est-à-dire, là où je pense qu'on sera aussi d'accord, c'est que le numérique c'est l'immatériel, et ça donne des possibilités d'échapper à la fiscalité encore plus grande aux entreprises qui sont dans ce secteur, et je rajouterais, il n'y a pas que les GAFA. C'est-à-dire les GAFA sont les plus visibles et les plus importantes, les championnes aussi de l'évasion fiscale, mais il y a des milliers d'entreprises qui profitent du numérique pour échapper à l'évasion fiscale. Et c'est ça qu'il faut faire. En d'autres termes, il faut refondre la législation fiscale en France et si possible à l'échelle européenne, voire mondiale, en fonction des spécificités du numérique. Et ça, aujourd'hui, c'est un peu en cours à l'OCDE, mais c'est totalement insuffisant dans nos pays respectifs.
Alors on verra justement si cette taxe GAFA qui est entrée en vigueur hier répond à ce projet que vous évoquez, Dominique Plion. Mais pour terminer notre tour de table, puisque nous avons récupéré au téléphone depuis Londres Benoît Thiolin, bonsoir.
Bonsoir.
Ça y est, vous êtes bien là. Benoît Thiolin, fondateur de l'agence d'innovation numérique, la NetSquad. Vous avez présidé le Conseil national du numérique de 2013 à 2016, ce qui vous fait un point commun avec le secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi. Et vous êtes par ailleurs, Benoît Thiolin, rapporteur d'un rapport à venir pour le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, qui sera publié ce rapport en mars, pour une politique de souveraineté européenne du numérique. Je voudrais qu'on reste encore un instant, je ne sais pas si vous avez entendu le début de l'émission, mais on va dire sur la spécificité de ces multinationales du numérique par rapport aux questions fiscales. C'est ce que disait Dominique Plion, c'est-à-dire quand on est dans le numérique, on est dans l'immatériel, et puis il y a aussi la possibilité de ne pas avoir d'établissement stable. Il faut peut-être d'ailleurs expliquer ce que c'est que cette notion qui permet de jouer justement sur les différents systèmes fiscaux nationaux.
Oui, alors ce qu'il faut essayer peut-être de placer dans le contexte, c'est que effectivement le dispositif qui est aujourd'hui utilisé en fait pour des grandes plateformes et en particulier ces multinationales du numérique de contourner au fond les impôts normaux qui devraient s'appliquer à elles, on parlera peut-être de la TVA tout à l'heure, mais en gros surtout l'impôt sur la société, c'est effectivement un dispositif qui en réalité est utilisé depuis très longtemps par beaucoup de multinationales. Je rejoins la personne d'attaque qui intervenait quand je suis arrivé au téléphone. Effectivement, vous avez un système qui permet, pour le résumer un peu simplement, qui permet tout simplement à une entreprise qui a une grosse partie de ses activités à l'extérieur du pays où elle fait commerce, de pouvoir utiliser ce qu'on appelle des prix de transfert, en gros de verser des royalties, en se prévalant de quelque chose qui est normal, qui est de dire, ben oui, effectivement, on a vendu tel type de produit, mais en même temps, il y a une grande partie de ces produits qui, en fait, relève d'une propriété intellectuelle qui, elle, est basée dans un autre pays. Et donc, on va tout simplement appliquer un prix de transfert qui fait que les bénéfices, ou en tout cas le chiffre d'affaires que vous avez réalisé dans ce pays, eh bien, il y a une partie qui doit être entamée, qui doit repartir, qui doit être transférée dans un des pays d'origine. Alors, ce système-là, il n'est pas né avec Google, Facebook, Amazon ou autre, et c'est d'ailleurs un des sujets et un des problèmes. Mais c'est vrai que l'émergence de ces plateformes, en quelques années, mais très rapide, ces plateformes, elles ont en gros 10, 20 ans, hein, ça fait, et je dirais, ça fait une dizaine, une quinzaine d'années, qu'elles réalisent des chiffres d'affaires qui sont devenus très, très colossaux. Eh bien, elles ont utilisé ce système, qui est utilisé par beaucoup de multinationales, mais d'une certaine manière, elles l'ont industrialisé à un niveau qui les rend très choquants et qui les rend aussi très visibles. Mais un des sujets et un des problèmes auxquels on se confronte, c'est que dans notre pays nous-mêmes, c'est vrai, il y a aussi énormément d'entreprises qui utilisent ce système. LVMH, enfin, il y a plein d'entreprises françaises qui exportent et qui appliquent des prix de transfert pour faire revenir, en général en France, une partie par ces systèmes de royalties, une partie de leurs bénéfices. Bon. Et donc c'est un des sujets qui est compliqué, si vous voulez, c'est qu'en fait, on essaie évidemment de se focaliser sur ces plateformes, à raison, parce qu'elles ont industrialisé ce système à un point qui est extrêmement choquant, hein, quand vous voyez que vous avez un Apple ou paye quasiment ou très très peu d'impôts en France, effectivement tout ça est extrêmement choquant. Mais le problème, c'est que nous avons nous-mêmes des entreprises qui l'utilisent de manière complètement légale pour faire exactement la même chose. Voilà.
Alors justement Benoît Thiolin, et pour revenir vers Mounir Majoubi, on va évoquer maintenant bien sûr l'idée de cette taxe GAFA. Pourquoi alors avoir choisi, non pas forcément maintenant, même si Dominique Plion disait il aurait fallu peut-être agir un peu plus vite. Bon. La France agit, elle agit seule pour l'instant, en essayant d'entraîner d'autres pays. Il y a l'Autriche qui annonce aussi qu'elle va mettre en place une taxe sur les GAFA. Mais pourquoi surtout avoir choisi de se limiter aux entreprises du numérique dans la mesure où le constat, c'est de dire aussi que cette optimisation fiscale qui joue sur la concurrence entre les États ne concerne pas que ces entreprises du numérique?
Vous l'avez entendu depuis plusieurs semaines, il y a une vraie demande en France, en Europe, de tous les peuples, une plus grande justice fiscale. Benoît Thiolin vient de le dire, sur les acteurs du numérique, ce sont les acteurs qui ont grossi le plus vite ces dernières années, ce sont ceux qui ont le plus transformé l'économie ces dernières années, et ce sont ceux dont les chiffres d'affaires sont devenus de plus en plus importants ces dernières années. Donc face à cette hypercroissance, et face à un impôt qui, lui, n'a pas bougé, qui est proche de rien, il y a eu une incompréhension complète. Et vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur, oui, il y a quelque chose de spécifique au numérique. Il y a quelque chose de spécifique à ces plateformes virtuelles. Benoît Thiolin parlait du mécanisme des prix de transfert. Il y a un deuxième mécanisme qui fait que comme c'est des services numériques, l'encaissement premier, avant même d'optimiser avec le prix de transfert, il peut être encaissé dans un autre pays. C'est le cas quand je vous ai raconté qu'on encaissait d'abord en Irlande, puis, alors même qu'il y a quand même un revenu créé en Irlande, on va réussir à l'annuler grâce à la méthode du prix de transfert. C'est pour ça qu'on arrive parfois à parler de mécanisme hamburger, de mécanisme sandwich, de compression fiscale. C'est qu'on a une architecture à plusieurs niveaux. Donc, quelles sont les réponses que les gouvernements ont apportées? Alors déjà, moi, je redis et je l'assume complètement. La raison pour laquelle on n'a pas su taxer ces grandes multinationales, c'est notre incapacité à nous mettre d'accord entre nous. Nous avons d'ailleurs été
élus... Quand vous dites entre nous, c'est entre nous, Européens.
Entre gouvernements européens. On a continué à se taper les uns les autres, à se faire une concurrence parfois véritablement malsaine sur l'optimisation et sur l'attractivité fiscale. Vous vous rendez compte qu'on est l'Union européenne, qu'on partage des frontières, qu'on partage l'ambition de paix, qu'on partage un marché unique, mais que sur les questions fiscales, eh bien on est capable. Alors que la veille, on partage une politique agricole commune, on se subventionne les uns les autres, on s'accompagne pour transformer, pour être compétitif dans le monde, et la semaine d'après, ce pays frère va vous mettre une taxe pour faire éroder l'assiette fiscale parce que ça va lui permettre d'attirer chez lui quelques entreprises. Donc ça, c'est pas acceptable. Alors qu'est-ce qui est en cours et quels sont les horizons temporels et qu'est-ce que le président Emmanuel Macron et Bruno Le Maire ont construit, ont porté depuis que nous sommes au pouvoir depuis 18 mois? La première chose, le premier horizon, c'est l'horizon mondial. Vous l'avez dit, il faut qu'on ait une solution mondiale. Et il y a un travail au sein de l'OCDE, qui a un nom très compliqué, BEPS, mais qui lutte contre ce qu'on appelle l'érosion de l'assiette fiscale. C'est comment on fait avec toutes ces grandes multinationales qui, au fur et à mesure, disent à tous les pays ensemble, les uns à la suite des autres, je n'ai rien à déclarer chez vous. Ce processus, il va être long. Certains espéraient qu'on ait un aboutissement en 2018. Évidemment pas.
On parle plutôt de 2020 maintenant.
Ça va être dur, plutôt 2020.
Pour un taux d'imposition minimum.
Pour un taux d'imposition minimum. Mais ça doit rester un objectif très fort. Et c'est très fort pour nous. Deuxième horizon, à plus court terme, celui de l'assiette commune européenne. C'est-à-dire que là, entre pays frères, qu'au moins on se mette d'accord sur la définition de l'assiette sur certaines activités ou sur toutes les activités. Ça, c'est un horizon essentiel. Là-dessus, c'est pareil, il va falloir attendre les élections. C'est-à-dire, les élections européennes arrivent. Moi, c'était, pour comme tous ceux de ma génération, une ambition plutôt pour la commission actuelle, mais ça n'arrivera pas. Donc, il faut se le dire. Donc, ça, on prend un an dans la vue à cause des élections. Donc, c'est plutôt aussi un horizon 2020-2021. D'où le troisième horizon très court terme, qui a été, il y a 18 mois, pour la France, de proposer à la Commission d'avoir une solution immédiate pour les acteurs du numérique et dire, cette taxe, dès qu'on a une autre solution, on la supprime. C'était ça, la fameuse sunset clause, vous savez. C'est si on a une alternative, on l'enlève. Mais en attendant, on la met tout de suite. Et vous l'avez vu au fur et à mesure du temps, mais nous n'avons pas renoncé. Mais au fur et à mesure du temps, certains de nos partenaires européens ont décidé de ne pas nous suivre. Donc on continue de se battre. Avec Bruno Le Maire, on pense qu'on peut continuer à convaincre ceux qui sont partis, mais on ne veut pas attendre et on ne veut pas perdre l'opportunité de le faire dès 2019. C'est pour ça que la France a dit, nous avançons et nous faisons et nous proposons cette taxe sur le chiffre d'affaires en 2019. On va y revenir après. Techniquement, c'est voilà, une
vous
taxe
nous expliquerez
sur
comment
le
ça...
chiffre d'affaires, voilà. Ce qui permet de résoudre beaucoup des problèmes qu'on a évoqués depuis tout à l'heure.
Oui, même si on verra que certaines entreprises du numérique, et notamment des représentants, on écoutera tout à l'heure une réaction du représentant en France d'Amazon, considèrent que ça peut aussi porter préjudice à certaines entreprises françaises. Mais en tout cas, sur la méthode, je trouve que c'est intéressant d'avoir aussi votre avis, Dominique Plion. C'est vrai que ça paraît quand même plutôt intelligent, plutôt que se dire il faut absolument un grand soir fiscal mondial tout de suite, procéder par étapes. Il y a cet horizon qu'évoquait Mounir Majoubi, qui est l'horizon de l'OCDE, donc mondial ou en tout cas quasi mondial, tous les pays qui font partie en tout cas de cette organisation. Et en attendant, il faut bien prendre des décisions. Et puisque l'Europe n'est pas capable de s'entendre, il fallait bien en prendre une rapidement. Et la taxe GAFA est une de ces décisions qui permet au moins peut-être d'impulser une dynamique, non ?
Bien, oui, on ne partage pas l'analyse parce qu'on pense que cette taxe GAFA sur le chiffre d'affaires, en fait, va être un moyen de ralentir, en réalité, plus que ce que vous semblez dire, les réformes en cours.
Pour quelle raison ?
Alors, je pense parce que d'abord, c'est les taxes dont il était question, principalement, c'est les taxes sur les profits, les bénéfices. Là, on taxe le chiffre d'affaires. Comment on va articuler cette taxe sur le chiffre d'affaires avec les textes en préparation, notamment au niveau européen, qui s'intéressent plutôt à la taxation des bénéfices. Donc déjà, problème d'articulation. On va créer un millefeuille.
C'est plus large, non, a priori. Enfin, je suis pas fiscaliste.
Oui, mais c'était ce qui était en cours. La directive Axis, ou les directives en cours de discussion, d'harmonisation des bases fiscales, en particulier, ça le font dans une perspective de taxation des profits. Et donc là, on décide de changer de pied, en quelque sorte, de faire une taxation sur le chiffre d'affaires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que faire une taxe à une solution à court terme, pour nous, on le craint. Peut-être qu'on ne fait pas assez confiance en ce gouvernement. C'est possible, mais on pense que ça
m'étonnerait
sera une solution.
De la part d'attaque.
Mais voyons, oui, bien sûr. C'est que on pense que c'est un moyen justement d'attendre, et notamment de faire un coup politique avant, dans la perspective des élections européennes qui viennent au printemps prochain. On pourra dire. Vous voyez, on a fait quelque chose, donc braves gens, votez pour notre liste, parce que, etc., etc. Donc nous, on dit non. Il y a, alors, par exemple, vous parliez il y a deux idées qui me paraissent importantes, qui contredisent un peu votre discours. Le premier, c'est qu'il y a eu une avancée, contrairement à ce que vous semblez dire, sur la directive européenne dite Axis, qui s'intéresse à la question de l'harmonisation des bases fiscales. Il y a eu un vote favorable du Parlement européen, et donc, contrairement à ce que vous semblez dire, il y a eu une avancée. Pourquoi est-ce que le gouvernement français, avec d'autres, qui pourraient le suivre, cette affaire, ne pousse pas davantage à la mise en place de cette directive plutôt que de mettre en place cette taxe.
Nous sommes le pays le plus engagé sur Axis.
Bah écoutez, pour le moment, je pense que ça ne se voit pas particulièrement en tout cas. Bon, mais alors vous pourrez tout à l'heure. Et deuxième chose, vous avez raison, et là je vous rejoins. Le problème européen, c'est que les pays ne sont pas d'accord entre eux. C'est qu'il y a des pays, pour des raisons commerciales, l'Allemagne par exemple se méfie beaucoup d'une mesure de rétorsion des États-Unis si on taxe ces GAFA. GAFA états-uniens, si d'autres pays qui sont les paradis fiscaux comme l'Irlande, vous l'avez mentionné, ou les Pays-Bas, ou le Luxembourg dit « Ah non, on veut pas », etc., parce qu'on veut défendre notre biftec et donc les paradis fiscaux, le fait que ces entreprises viennent loger leur activité et leurs profits chez nous. Mais nous disons, il y a une solution. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas utilisée ? C'est une coopération renforcée. Pourquoi est-ce que les Français, avec d'autres pays comme l'Autriche, par exemple, et d'autres qui semblent favorables, ne font pas une coopération renforcée qui permet de contourner, excusez-moi, je continue, c'est important, la règle malheureuse, et je pense qu'on sera d'accord, de l'unanimité en matière fiscale. Il suffit que 10 pays représentant 60% de la population aillent de l'avant. Et je termine sur un point.
Les 10 pays.
On l'a fait, c'est beaucoup. On l'a fait pour la taxe sur les transactions financières. Figurez-vous qu'il y avait 10 pays hein, et qu'on était, on était d'accord. Et qui a d'ailleurs fait capoter, c'est la France et M. Macron en particulier, qui ont fait capoter ce qui avait été négocié pour la taxe aux transactions financières dans le domaine de coopération renforcée. Donc c'est pour ça qu'on a une certaine méfiance, si vous voulez, sur la dimension volontariste, c'est-à-dire on va taxer, parce que il y a eu quand même, on a été échaudé récemment sur un certain nombre de choses, notamment cette taxe sur les transactions financières.
Bon, qui, donc c'est pas forcément une opposition absolument catégorique, non, en tout cas voilà, une forme de méfiance. Avant de revenir vers Mounir Benjoubi, si vous voulez bien les uns et les autres peut-être faire des interventions un tout petit peu plus d'accord. courtes, si c'est possible.
C'est compliqué le droit fiscal.
Juste Benoît Thiolin, je rappelle que vous étiez président du Conseil national du numérique en 2013. Est-ce que ces questions, elles existaient déjà, elles étaient déjà à l'agenda au moment où vous présidiez cette institution,
bien sûr,
cette organisation?
Pierre Moscovici nous avait saisi pour travailler sur la question de la fiscalité. Et à l'époque, lorsqu'on lit un rapport, nos conclusions étaient, et vous verrez que là-dessus moi-même j'ai évolué, nos conclusions étaient plutôt négatives. C'est-à-dire qu'on voyait fleurir à peu près une ou deux fois par an, généralement, du vote du budget, des tentations de parlementaires de voter des taxes spécifiques. Il y en a eu toute une palanquée, taxes au clic, taxes à la passante, taxes sur la publicité en ligne, etc. Et nous, on avait alerté le ministre en disant nous sommes plutôt défavorables à toute taxe sectorielle, parce qu'en réalité, souvent à la fin, elle pénalise soit l'écosystème numérique national, français en l'occurrence, soit le consommateur numérique, et en tout cas, dans les deux cas, pas tellement les plateformes, mais surtout en réalité, par ses effets de bord, les utilisateurs et les entreprises françaises du numérique.
Qu'est-ce qui fait que vous avez changé d'avis ?
J'ai changé d'avis parce que la lenteur des processus parallèles que nous soutenions, c'est-à-dire notre réponse à Pierre Moscovici, c'est de dire, attention, il faut écarter ces taxes sectorielles, beaucoup d'effets pervers, mais il faut mettre le paquet sur les négociations au sein de l'OCDE et au sein de l'Union européenne. Et il faut reconnaître que à ceci près que quand même la situation a évolué sur la TVA, je vous rappelle quand même que il y avait encore 5 ans, vous pouviez appliquer une TVA du pays qui était émetteur de la plateforme et pas du pays où était consommé le service. Ça a été réglé par l'Union européenne. Il faut le dire quand même, parce que n'arrête pas de dire qu'il n'y a jamais rien qui bouge, il y a des choses qui ont évolué. Il y a évidemment un certain nombre de décisions, notamment au niveau européen. Mais c'est vrai que moi, aujourd'hui, quand je vois la lenteur des négociations, je comprends que l'on soit tenté, d'une certaine manière, de faire un acte politique qui consiste à dire, ben oui, on comprend bien que cette taxe, elle aura des effets pervers. Mais cette taxe, elle doit être vue comme étant, finalement, une espèce de début de bras de fer, plutôt politique qu'en réalité économique fiscale, pour faire bien comprendre d'abord à l'Union européenne, d'abord aux négociateurs au sein de l'OCDE et aussi aux plateformes, qu'on ne peut pas continuer longtemps avec une fiscalité optimisée de manière aussi agressive et qui est un scandale. C'est un scandale à tout point de vue, qui est un scandale pour le fisc et le contribuable français, mais qui est aussi un scandale pour l'écosystème numérique français et européen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes une entreprise numérique européenne, vous ne passez pas à armes égales avec une américaine, puisque vous êtes imposé, alors que les Américains équivalents ne le seront pas. Donc alors, il y a un vrai problème d'inéquité fiscale.
Alors on va voir si Mounir Majoubi partage la façon dont vous présentez peut-être aujourd'hui cette taxe, c'est-à-dire davantage un acte politique qu'un acte économique. C'est vrai que si on suit ce que dit le gouvernement, Mounir Majoubi, cette taxe sur les GAFA, qu'il faut quand même expliquer à un moment donné, va rapporter 500 millions d'euros. J'imagine que c'est 500 millions d'euros à l'année.
À l'année, potentiellement plus.
C'est pas forcément une somme très importante au regard de on va dire de l'activité qui est celle justement de ces géants du numérique, même si évidemment ça n'est pas négligeable. Mais c'est quoi donc cette taxe, à qui elle va s'appliquer et quel est l'effet attendu de cette taxe?
Alors deux choses. On va d'abord regarder l'assiette, c'est-à-dire sur quelle base, sur quelles activités on va analyser. Puis après on va regarder la géographie, puisque c'était un point de débat qu'on avait entre nous. Puis après on va regarder le taux. Et c'est agréable de faire du droit fiscal sur France Culture, c'est important. Sur les types d'activités qu'on va taxer. On l'a rappelé, il y a trois activités importantes pour nous. La première, c'est celle d'intermédiation de marketplace. C'est-à-dire quand la plateforme, son rôle, c'est de permettre à des gens qui vendent de rencontrer des gens qui achètent. Par exemple, Airbnb, c'est une marketplace entre des gens qui ont une chambre à louer et des gens qui sont prêts à la louer. Amazon a une activité de marketplace. C'est à la fois un vendeur en direct, mais c'est aussi une activité où des commerçants peuvent vendre des produits à des clients.
Donc place de marché, marketplace.
Place de marché, et dans ces places de marché, la plateforme va prélever des frais d'intermédiation qui se situent entre 10 et 30% selon les plateformes, parfois plus, et d'ailleurs on peut leur reprocher.
Donc la taxe, elle porte là-dessus, sur les revenus publicitaires,
sur vous disiez tout à l'heure. Sur la publicité en ligne, et ça c'est très important de le rappeler, la publicité en ligne c'est le cœur de leur business. C'est-à-dire que c'est ça qui leur fait faire des milliards d'euros en France de chiffre d'affaires. La pub, qui est payée par toutes les boîtes qui font de la pub sur Internet, à un moment ou à un autre, elle passe par un de ses prestataires. Donc ça, c'est très important de le rappeler. Et la troisième activité, qui sera plus petite, mais qui était très importante pour nous de le mettre, parce qu'elle va avoir un rôle important, parce que, et vous l'avez rappelé, à la fin, ce sera elle qui sera la mère de toutes les activités. C'est le négoce de données personnelles. Aujourd'hui, je vous dis que le business, c'est celui de la pub en ligne. Sauf que, entre la pub en ligne et le négoce des données personnelles, il y a une superposition des deux. Donc ce qui est important pour nous, c'est d'avoir le troisième pour pas qu'on puisse échapper à la pub en ligne en disant « Non, nous, on fait que de l'échange de données. » Là, ce sera taxé aussi.
Donc revenus publicitaires, revenus des places de marché, revenus de vente des données personnelles, taxé à 3%,
taxé à 3% du chiffre d'affaires.
Du chiffre d'affaires.
Et là, il faut différencier les taxes sur le chiffre d'affaires des taxes sur le profit. Pourquoi est-ce qu'on ne taxe pas le profit ? Parce que le profit, c'est compliqué à calculer, notamment parce qu'à cause de ces grands accords internationaux et de la non-articulation mondiale de l'imposition du profit. Eh bien, avec ce que décrivait Benoît Thuelin tout à l'heure sur cette capacité à ramener le coût du développement du produit américain vers la France grâce à ce qu'on appelle cette faculté de transfert. Bon, à cause de ça, leur profit, il est de zéro. Ce qui est intéressant avec le chiffre d'affaires, c'est que le chiffre d'affaires...
Donc 3% de zéro, ça ferait toujours zéro.
3% de zéro, enfin sur le profit, ce serait l'impôt sur les sociétés, qui est plutôt autour de 30%, 25%. Et ce 25% de zéro, ça fait zéro. Maintenant, si on taxe le chiffre d'affaires, on ne va pas taxer 25% du chiffre d'affaires, c'est beaucoup trop important. Donc on va taxer 3%. 3%, parfois ça semble un petit peu bas, mais 3% du chiffre d'affaires, si la boîte elle a une rentabilité de 10 à 20%, ça revient à faire 25 à 30% du profit. Et c'est pour ça que ce 3%, ça n'est pas petit. Et quand on dit 500 millions, 500 millions, c'est proportionnel au chiffre d'affaires potentiel que ces boîtes réalisent en France, qui est un chiffre d'affaires de plusieurs milliards d'euros. Donc, cette taxe sur le chiffre d'affaires, elle va pas être faite uniquement sur ce qu'ils nous déclarent en France, elle va être faite sur l'activité économique réelle en France. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous le redisais, l'activité économique, c'est quoi ? C'est des boîtes françaises qui touchent des clients français. Et aujourd'hui, tout le travail technique qu'on est en train de faire, et quand on va le rendre public, ce sera très important pour le débat législatif, c'est qu'est-ce qui se passe quand c'est pas exactement français vers français ? Parce que c'est facile comme cas. Qu'est-ce qui se passe quand c'est une boîte étrangère qui veut faire de la pub vers des Français ? On taxe complètement ou pas complètement ? On est d'accord avec ces pays-là. Donc c'est ça tout le travail qui a lieu en ce moment.
Oui, mais justement, Mounir Majoubi, juste pour terminer sur l'explication de cette taxe, et pour comprendre quelles sont les entreprises qui vont être touchées. Parce qu'on se dit, bon, c'est les GAFA, c'est très bien, ils ont énormément d'argent, mais vous n'allez pas, j'imagine, mettre dans la loi une taxe GAFA. C'est-à-dire, on ne peut pas assigner à une taxe, à un impôt, des entreprises en particulier. Il faut que ça puisse toucher. Donc, ça peut aussi toucher des entreprises françaises. Je sais pas, je pense, par exemple, prenons le Bon Coin, par exemple. On est dans l'intermédiation, c'est-à-dire on peut acheter sur ce site qui est une entreprise française.
Ce n'est pas une entreprise française.
C'est pas une entreprise française, Le Bon Coin. Vous voyez, j'étais persuadé que c'était. Bon, en tout cas, c'est européen. Et ça veut dire que Le Bon Coin, par exemple, sera aussi assujetti à cette taxe. Et est-ce que ça n'est pas finalement fragilisé un certain nombre d'acteurs du numérique européen ?
Vous ne prenez pas forcément le bon exemple. Parce que Le Bon Coin a une très faible activité de plateforme, de mise en relation payante et de publicité.
Spotify, par exemple, qui fait.
Non. Alors, Spotify non plus.
Exemple, ça serait quoi?
Un bon exemple. Quand on fait cette loi, évidemment qu'on n'est pas dans une discrimination en disant on fait ça sur les Américains. On fait ça sur toutes les plateformes qui font de l'intermédiation et de la publicité en ligne. Ça va toucher des Françaises ou des Européennes, peut-être les plus grosses d'entre elles, les très grosses d'entre elles, celles qui leur ressemblent en taille, en activité et en impact. Quand on fait ce type de loi, le but, c'est pas de créer une nouvelle barrière à l'entrée. Les Français n'ont pas dit qu'ils détestaient Google et Facebook, ils ont dit qu'ils avaient envie qu'ils payent plus d'impôts, ça ne va pas les empêcher d'arriver. Donc oui, ça va toucher des acteurs. Il faut que nous fassions très attention à ce que cette nouvelle taxe, elle ne sanctionne pas, elle ne sur-sanctionne pas les très gros acteurs français et européens. Mais ils sont peu nombreux et tout le monde trouvera juste, et beaucoup d'entre eux sont déjà venus nous le dire. Ils trouveront juste de participer à cette taxe.
Brièvement, Benoît Thiolin, avant de repasser la parole à Dominique Plion, quand vous parliez d'effets pervers, est-ce que c'est à ces effets pervers-là que vous pensiez, c'est-à-dire un impact aussi sur des entreprises françaises et européennes?
Oui, il y a toujours un risque. Hein, sur une taxe sectorielle, il y a toujours un risque. C'est pour ça que moi, je pense que sur le long terme, on doit privilégier en réalité le bon fonctionnement des taxes normales, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés, la TVA. En l'occurrence, dans une situation de transition, parce qu'on n'arrive pas à régler ce problème-là, pourquoi pas être un peu créatif et essayer de les attraper d'une autre manière. Mais il faut quand même voir que tout ça risque d'être un peu fragile, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout à l'abri de contentieux. Lorsque vous savez qu'en réalité notre fiscalité elle est basée sur plus de 150 conventions fédérales, que c'est un acquis très complexe, qu'il y a encore récemment le gouvernement français a perdu face aux tribunaux français un redressement qu'il essayait d'imposer à Google. C'est pas juste en tapant du poing sur la table et en disant que on va les taxer qu'on arrive à le faire. C'est encore une fois, le droit fiscal est éminemment complexe. Il y a des recours et c'est normal, on est dans un état de droit. On peut pas juste dire on va taxer un tel parce qu'on a envie de le faire. Évidemment que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc moi je suis favorable à ce qu'on essaie de réfléchir à des situations de transition. Je n'avais pas compris qu'il y avait dans les projets du gouvernement même la tentative au fond de reprendre l'idée du rapport Collin et Collin sur la taxation des contenus et des échanges de contenus qui sont évidemment et en gros quelque chose de croissant dans l'économie numérique. Eh bien, pourquoi pas essayer, mais juste, c'est certain que ce sera difficile à faire, qu'il y aura quand même une insécurité juridique et qu'il faudra regarder. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que l'essentiel, ce serait quand même de se mettre d'accord au niveau européen. Et je crois qu'il faut lâcher le mot. En l'occurrence, c'est pas de moins d'Europe dont on a besoin aujourd'hui. C'est tout simplement, en matière fiscale, d'avoir une vraie position fédéraliste sur ce sujet. Tant qu'on ne sera pas dans une espèce de fédération fiscale au niveau européen, on n'arrivera pas à se mettre d'accord pour les traquer.
Alors Dominique Plion, porte-parole d'Attac, hein, je le rappelle, on a bien compris ce que vous disiez tout à l'heure, que vous aviez, vous, cette crainte que cette décision, finalement, ralentisse les questions d'harmonisation européenne et plus largement au niveau de l'OCDE, plutôt qu'elle les accélère. Il y a un autre argument qui est aussi développé par Attac, par rapport au projet de taxe. Alors c'était par rapport au projet de taxe européenne, mais j'imagine que votre analyse, elle est identique pour la taxe GAFA qui est mise en place par la France. Vous dites, chez Attac, que ça crée un dangereux précédent pour l'équité fiscale. Pour quelle raison?
C'est-à-dire qu'on traite, c'est un peu le problème des taxes spécifiques, on va traiter de manière spécifique une catégorie d'acteurs, en l'occurrence les GAFAM, et par rapport aux autres acteurs. Donc ça crée des distorsions inévitables. Donc on pense que c'est même sans parler d'équité au sens des droits fondamentaux, etc., tout simplement ça crée des distorsions, et ce qui est tout à fait défavorable au bon fonctionnement du système, de l'économie. Ce que je voudrais dire quand même, je voudrais appuyer dessus parce que j'aurais que les auditeurs le comprennent bien, c'est que je pense que la taxe GAFA va pérenniser la situation actuelle, que ça va être du provisoire qui va durer. Je fais le pari, on se retrouve dans un an, on verra si on aura beaucoup avancé.
Pérenniser, ça veut dire que ça ne change rien aux pratiques d'optimisation fiscale.
Voilà, parce que on ne s'attaque pas en attendant, on ne s'attaque pas aux racines fondamentales de l'évasion fiscale. Vous avez mentionné les prix de transfert, on peut parler de la création de sociétés écrans, on peut parler de tas de pratiques aujourd'hui sur lesquelles on ne s'attaque pas directement à court terme. C'est-à-dire que, et je pense que c'est ça qui, pour nous, on pousse, en tout cas on est dans notre rôle, nous mouvement. Citoyens, on est dans notre rôle pour pousser pour que ces choses se fassent. Parce qu'on pense que les racines de l'évasion fiscale ne sont pas du tout affectées, au contraire, par une taxe provisoire comme celle-là qui pérennise une situation et qui considère, on va continuer comme avant, simplement on va faire une taxe spécifique, une taxe sectorielle. Nous, on pense que c'est relativement dangereux. Je voudrais revenir sur la dimension fédéraliste. Je crains que, et là pour le coup, je rejoindrai peut-être le ministre, je pense qu'il faut être réaliste. On n'est pas prêt au fédéralisme fiscal en Europe parce qu'il y a trop d'intérêts divergents. Alors, il faut essayer de contourner, je répète, la règle de l'unanimité en matière fiscale qui est une catastrophe. Et donc, pour avancer, il y a des pratiques. Et même les traités, je le disais tout à l'heure, prévoient des possibilités. Je répète, c'est ce qu'on appelle notamment les coopérations renforcées. Pourquoi est-ce que le gouvernement français et les autres, et d'autres, ne s'engouffrent pas dans cette possibilité pour essayer avec un groupe de pays d'aller de l'avant et faire avancer l'harmonisation fiscale en Europe, puisqu'on sait que de toute façon, on aura toujours une opposition de l'Irlande, toujours une opposition des Pays-Bas, du Luxembourg, etc. Et donc, il faut trouver des solutions. Donc, le fédéralisme fiscal, ça, c'est pour après-demain. Mais en tout cas, à court terme ou à court-moyen terme, il y a des moyens d'avancer et je pense qu'on ne les utilise pas.
Une courte réaction de Benoît Thiolin. Je dis courte parce que comme la communication téléphonique n'est pas terrible, c'est mieux. Et ensuite, Mounir Majoubi.
Je ne vois pas en quoi le fait de mettre en place des taxes nationales freine en quelque façon les processus de négociation au niveau européen au sein de l'OCDE. Je ne vois absolument pas de lien. Et d'ailleurs, il faut un petit peu relativiser l'aventurisme du gouvernement français en la matière. Les Anglais ont voté une taxe Google, il y en a eu en Italie, en Allemagne.
Enfin,
voilà, faut quand même pas non plus exagérer. Ce n'est pas un aventurisme et un projet complètement hasardeux. Et je ne vois pas de lien de cause à effet entre le fait de s'en saisir au niveau national et de ne plus le faire du coup au niveau européen. Je crois même l'inverse. Je crois qu'à la Commission européenne, on regarde beaucoup ce qui se fait au niveau national et c'est parfois une manière de faire passer des messages politiques forts.
Monia Majoli.
Oui, il faut rappeler que Emmanuel Macron, dès l'automne 2017, quelques semaines après son élection, en avait fait le sujet premier, majeur de son intervention au Conseil de l'Europe pour redire à tous les dirigeants européens que c'était la priorité de la France. Bruno Le Maire en a fait son action politique européenne, il en a fait un des éléments majeurs. Il y avait le sujet de la fiscalité des géants du numérique et le sujet d'un budget européen. La France s'est battue, mobilisée. Quand on se bat et qu'on se mobilise, ça veut dire qu'on mobilise tous nos fonctionnaires de l'administration fiscale pour proposer et travailler. Les propositions qui ont été faites par la Commission, par M. Moscovici, la France avait massivement contribué à leur écriture. Sur ce sujet, on ne pourra jamais dire que la France n'était pas au rendez-vous. Aujourd'hui, nous nous battons pour continuer à convaincre nos alliés. Nous étions prêts à faire des concessions. Bruno Le Maire est allé voir individuellement. C'est les derniers ministres qui n'étaient pas complètement prêts à nous rejoindre. Aujourd'hui, c'est la France. C'est la France qui va permettre qu'on arrive à se mettre d'accord sur ce sujet européen. Et sur l'OCDE, et sur la trajectoire mondiale. La France, encore une fois, est une des plus engagées. Vous avez compris que le sujet de la justice fiscale, on l'a mis au cœur de notre projet, on s'est fait élire là-dessus. Ah. Et aujourd'hui, les mouvements...
Le mouvement social qui vient de se développer n'était pas tout à fait d'accord avec votre vision.
Hein, le mouvement social actuel l'exige encore plus fort, oui, cette justice sociale.
Il ne serait pas manifesté comme cela s'ils avaient été convaincus que le gouvernement était un défenseur
assidu
de la justice fiscale.
Une des revendications, voilà, c'est la taxe sur les GAFA. Et moi, je réponds à chaque fois que je rencontre
C'est pas ce qui apparaît.
Franchement, là, vous m'avez le paradoxe.
Des gilets jaunes.
Ah bon, mais alors, allez voir si c'est pas au cœur de leur revendication sur la justice fiscale.
J'ai fait plus que regarder, on a fait pas mal d'émissions sur le sujet. Juste pour terminer, Mounir Majoubi, je disais tout à l'heure, on vous fera écouter une réaction du représentant d'Amazon France, mais on n'a pas le temps. Mais quand vous dites on se bat avec nos partenaires, est-ce que vous vous battez contre les GAFA aujourd'hui, contre ces géants du numérique? C'est-à-dire, vous qui êtes secrétaire d'État au numérique, comment est-ce que vous travaillez? Parce qu'il faut bien aussi travailler, parce que certes, ce sont des entreprises qui ne payent pas suffisamment d'impôts au regard de leur activité, mais elles ont une activité en France, elles sont utiles, elles créent aussi des emplois.
Vous avez bien raison, les GAFA, les grandes entreprises du numérique international, ne sont ni les ennemis, ni les bienfaiteurs de la France. C'est-à-dire qu'on ne va pas les voir en espérant qu'elles développent l'économie française et on ne va pas les voir non plus en leur disant qu'elles ne sont pas la bienvenue ici. Ces entreprises, on leur dit deux choses. Pourquoi est-ce qu'on se pose toutes ces questions sur Google et Facebook? Parce que les Français les adorent. C'est-à-dire qu'on ne serait pas en train de débattre d'eux s'il n'y avait pas 90% des Français qui utilisent Google au quotidien. On ne serait pas en train de débattre d'eux s'il n'y avait pas plus de 30 millions de Français qui ont un compte sur Facebook. Ces entreprises fournissent un service hyper innovant qui a su charmer et convaincre les clients. Mais ce qu'on leur répond à ces entreprises, c'est « Mais oui, faites du business en France. Oui, développez des emplois en France. Oui, développez et innovez en France. Mais s'il vous plaît, soyez des entreprises responsables. Payez vos impôts. Quand vous avez des relations avec les TPE-PME, assurez-vous que vous leur permettez de se développer et pas de les détruire. C'est pour ça que j'ai lancé une concertation et une conciliation avec les grandes plateformes et les TPE-PME, puisque des centaines d'entre elles souffraient de leurs relations. Et là, aujourd'hui, elles se sont engagées à la résoudre. Moi, avec ces entreprises, je m'engage à chaque fois à les traiter de façon équilibrée pour leur permettre de faire des affaires et avoir de l'impact positif sur notre économie.
Là encore d'un mot, Benoît Thiolin, à côté de cette politique d'harmonisation fiscale, est-ce qu'il ne faut pas aussi mener une politique qui permette véritablement l'émergence de vrais concurrents à ces GAFA, de vrais concurrents en Europe, parce qu'il y en a d'autres dans le monde, il y a les Chinois, on a fait une émission il n'y a pas très longtemps sur cette antenne.
Bien sûr, vous savez quand même qu'un petit peu à l'origine de toutes nos discussions d'aujourd'hui, il y a une loi fiscale, qui est la loi fiscale américaine de 1998, et qui avait été faite précisément pour permettre, et au fond même favoriser, et l'éclosion de ces futures plateformes qui nous dominent aujourd'hui, mais aussi un environnement fiscal qui leur soit favorable. Alors, c'est pas pour dire que la fiscalité peut tout et doit tout, mais c'est vrai qu'à l'origine de tout ça, il y a eu aux États-Unis une profonde réflexion stratégique sur comment est-ce qu'on favorise demain les plateformes du numérique. Et c'est vrai qu'en Europe, on tarde un peu à faire ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas nos futurs champions qui sont en préparation, mais quand même, on peine à voir une vraie volonté de politique industrielle au sens large du terme, pas simplement fiscale.
Voilà, et on aura l'occasion sans doute d'en reparler au moment de la remise de votre rapport, Benoît Thiolin, pour une politique de souveraineté européenne du numérique. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Dominique Lyon. Et merci Mounir Majoubi d'avoir participé à ce débat que vous pouvez réécouter sur franceculture.fr. Vous pouvez trouver notre site en allant sur le moteur de recherche qui vous plaira le plus. Je ne vous donne pas de nom. Merci à toute l'équipe du Grain, Antoine Tricot, Guillaume Laguigné, Virginie Leduo, Isolde Sicard et Antoine Dulster. Émission réalisée par Émilie Valla, avec à la prise de son Audrey Guélil. Dans un instant, vous retrouverez Lucille Como pour la dispute, pour parler d'art plastique. Demain, dans le Grain, peut-on modéliser le futur ?